Chapitre 6. Un voyage de rêve. Autre usage de cette magie des bêtes méprisées. Les ignorants croient que le vif ne sert qu'à permettre aux hommes de communiquer avec les animaux. Mot rendu illisible par des traces de brûlure. Et changé de forme dans de sinistres dessins. Guinrodi Lian, le dernier à reconnaître publiquement à la cour de Castelser qu'il possédait, long passage détruit par le feu, de guérir aussi l'esprit. Il affirmait également qu'il pouvait emprunter aux bêtes leur connaissance instinctive des plantes médicinales, ainsi que leur méfiance à l'égard. Le manuscrit s'arrête là. Le parchemin suivant, brûlé lui aussi, commence ainsi. Posa les mains sur sa tête, la tint fermement et plongea son regard dans le sien. Il resta dans cette position devant elle, tandis qu'on procédait à l'épouvantable opération. Elle ne le quitta pas des yeux, et elle ne poussa pas un cri de douleur. J'en fus témoin en personne, mais, là encore, le texte se perd dans la bordure noircie du document. Les mots suivants sont peut-être « n'osa pas en parler ». Essai de reconstitution d'un traité sur le vif, rédigé par le maître d'art Puy Gauche, à partir de fragments brûlés découverts dans un mur du château de Castelser par Tombe Étoile. Je réussis à tenir jusqu'au lendemain matin sans vomir. Je perdis le compte du nombre de fois où je dus retenir l'our alors qu'il se penchait dangereusement au-dessus de la mer et faisait des efforts désespérés pour se vider l'estomac. Les railleries des matelots n'arrangeaient rien, et si j'avais pu, sans risque, délaisser l'our quelques instants, j'aurais volontiers passé mes nerfs sur un ou deux d'entre eux. Leur pique n'avait rien des taquineries bon enfant à l'adresse d'un terrien qui n'a pas le pied marin. J'y percevais le plaisir mauvais d'une bande de corbeaux qui tourmente un aigle isolé. L'our était différent, simple d'esprit, empêtré dans un corps maladroit, et il se réjouissait de sa détresse qu'il prenait pour une preuve de son infériorité. Même lorsque quelques autres malheureux nous rejoignirent au bastingage, l'our resta leur cible privilégiée. Ils s'interrompirent brièvement quand le prince et Imbre firent une promenade vespérale sur le pont. L'air du large et l'éloignement de Castelser paraissèrent à gaillardir l'adolescent. Comme il s'arrêtait près de l'our pour lui parler à mi-voix, Imbre posa discrètement la main sur la lisse contre la mienne. Tout en me tournant le dos et en feignant de suivre la conversation entre Devoir et son serviteur.
« Comment va-t-il ? »
Il est malade comme un chien, et malheureux comme les pierres, et les moqueries des matelots n'améliorent pas la situation.
Je le craignais, mais si le prince s'en aperçoit et les réprimande, le commandant leur infligera un blâme, et tu sais alors ce qui s'ensuivra.
Oui, ils profiteront de toutes les occasions où l'on ne les verra pas pour rendre la vie infernale à l'our.
Exactement. Par conséquent, efforce-toi de ne pas leur prêter attention. Ils se calmeront, je pense, une fois habitués à sa présence à bord. As-tu besoin de quelque chose ?
Une ou deux couvertures, et un seau d'eau douce pour qu'il puisse se rincer la bouche. Je passai une nuit longue et fastidieuse aux côtés de l'our pour le protéger, au cas où les railleries prendraient un tour plus brutal, autant que pour l'empêcher de tomber par-dessus bord. À deux reprises, je tentai de le ramener dans la cabine. Chaque fois, à peine nous éloignâmes-nous de trois pas du bastingage qu'il fut repris de vomissements, et même quand il n'eut plus rien à régurgiter, il refusa de rentrer. La mer grossit avec la nuit, et lorsque l'aube se leva, un abado nous cingla, poussé par le vent, et nous détrempa autant que les embruns arrachés à la crête des vagues. Mouillé, glacé, il ne voulait pourtant pas quitter le pont. « Mais tu peux vomir dans un seau, lui disais-je, à l'intérieur, au chaud. »
« Non, non, je suis trop malade pour bouger, »
répétait-il d'un ton gémissant. Omnubilé par son mal de mer, il était décidé à se rendre malheureux. Je ne voyais pas quelle attitude adopter, sinon le laisser pousser l'expérience à l'extrême, en tirer les leçons et en finir une bonne fois pour toutes. Assurément, quand il aurait touché le fond, il accepterait de se mettre à l'abri. Peu après l'aurore, Crible m'apporta à manger. Je commençais à me demander si le jeune homme affable et candide ne travaillait pas pour Imbre et n'avait pas pour mission de m'épauler. Si c'était le cas, je le regrettais. Toutefois, j'acceptais avec reconnaissance l'écuelle de panade qu'il me remit. Lour avait faim, malgré sa nausée, et nous partageâmes ce petit déjeuner. Nous eûmes tort, car, devant le spectacle du petit homme rendant peu après sa portion à la mer, mon propre estomac résolut de se séparer de ce que j'avais ingurgité. Ce fut la seule occasion où le petit homme parut se dérider ce matin-là.
« Tu vois, tout le monde va être malade. Il faut rentrer à Castelserre. »
Impossible, Lour. Nous devons continuer jusqu'aux îles d'outre-mer pour que le prince puisse tuer un dragon et demander la main de l'anarchesca. Il poussa un long soupir. Il tremblait de froid, de plus en plus fort malgré les couvertures dont je l'avais enveloppé.
« Elle ne me plaît pas. Et je crois qu'elle ne plaît pas au prince non plus. Elle n'a qu'à la garder, sa main. Rentrons à la maison. »
Sur le moment, j'eus envie d'acquiescer, mais je m'en gardais. Il poursuivit.
« Je n'aime pas ce bateau. Je voudrais bien ne pas être monté dessus. »
Il est curieux de constater qu'on peut s'habituer à un élément de son environnement au point de ne plus le remarquer. C'est seulement en entendant ces derniers mots de Lour que je me rendis compte de leur écho profond dans sa musique d'art. Elle avait martelé mes murailles toute la nuit, composé des battements des voiles, du craquement des cordages et des membrures, et des chocs des vagues contre la coque. Lour avait transformé tous ces bruits en une chanson empreinte de colère et de peur, de détresse, de froid et d'ennui. Il avait saisi toutes les émotions négatives qu'un matelot peut ressentir pour un navire et les diffusait de toute sa puissance comme un hymne furieux. Je pouvais opposer mes remparts à ce déferlement, mais certains membres de l'équipage de la Fortune de Vierge ne disposaient pas de ce recours. Tous n'étaient pas sensibles à l'art, mais ceux qui y présentaient une disposition devaient ressentir un malaise aigu qui, dans l'espace réduit du navire, ne tarderait pas à contaminer leurs compagnons. J'observais quelque temps les hommes au travail. L'équipe de quart exécutait ses tâches avec efficacité, mais à gestes nerveux. On sentait de la tension derrière la précision, et l'officier qui les commandait guettait d'un œil d'aigle le plus petit signe de négligence ou de paresse. La camaraderie que j'avais perçue alors qu'il chargeait le navire avait disparu, et la dissension croissait. Comme un essaim de frelons dont une hache vient d'ébranler l'arbre qui abrite leur nid, ils vibraient d'une colère qui n'avait pas encore trouvé de cible. Si cette fureur continuait de grandir, nous risquions des rixes, ou pire, une mutinerie. J'observais une marmite qui arrivait à ébullition, et je savais que, sans intervention de ma part, nous finirions tous ébouillantés. « Lour, ta musique est très forte et très effrayante. Peux-tu la changer, la rendre calme et douce, comme la chanson de ta maman ?»
« Je ne peux pas !»
Il prononça ces mots en gémissant et les artisa en même temps.
« Je suis trop malade !»«
Lour, tu fais peur aux matelots. » Ils ne savent pas d'où vient cette chanson. Ils ne l'entendent pas, mais certains la sentent un peu, et ça les terrifie.
« Je m'en fiche. Ils sont méchants avec moi, de toute façon. Ils n'ont qu'à faire revenir le bateau à la maison. »
Ils n'ont pas le droit, Lour. Ils doivent obéir au capitaine, et le capitaine doit obéir au prince. Or, le prince doit se rendre dans les îles d'outre-mer.
Il n'a qu'à leur dire qu'il faut rentrer à la maison. Je descendrai du bateau et je resterai à Castelserre.
Mais nous avons besoin de toi, Lour.
Je crois que je suis en train de mourir. Il faut rentrer à la maison.
Là-dessus, sa musique d'art atteignit un paroxysme de peur et de désespoir. Non loin de nous, un groupe de matelots allait un bout pour augmenter la toile. Leurs larges pantalons battaient dans le vent, mais ils n'y prêtaient pas attention. Bandant les muscles de leurs bras nus, ils hissaient méthodiquement les voiles. Mais quand la musique noire de mélancolie les engloutit, leur cadence se rompit. Le premier voulut soulever plus de poids qu'il ne pouvait emporter, perdit pied et trébucha en poussant une exclamation de colère. En un instant, ils reprirent le cordage en main, mais j'en avais vu assez. Mentalement, je cherchais le prince et le trouvais dans sa cabine en train de jouer aux cailloux avec Civil. Je lui exposais brièvement le problème. « Pouvez-vous en informer Umbre ?»«
Difficilement.
Il observe le jeu non loin de moi, mais il y a aussi Tram et son garçon.
Son garçon.
Tram l'appelle Lest.
Lest Vifier est à bord?
Vous le connaissez? Il a embarqué avec Tram et il se conduit avec lui comme un page avec son maître. Pourquoi? Est-ce important?
Seulement pour moi, me dis-je. Je fis une moue d'exaspération. Plus tard. Rapportez mes propos à Imbre le plus vite possible. Pouvez-vous entrer en communication avec Lourd pour tenter de le calmer?
Je vais essayer.
Zut! Vous m'avez distrait et Civil a gagné.
L'enjeu dont je vous parle est plus grave que celui d'une partie de cailloux, je pense. Répondis-je sèchement avant de rompre le contact. Assis près de moi sur le pont, les yeux clos, Lourd se balançait d'avant en arrière d'un air affligé au rythme de sa musique empreinte de détresse. Mais mon malaise ne provenait pas que de ce spectacle. J'avais assuré à Horty que son frère avait pris le chemin du retour, or c'était faux. Quelle explication allais-je bien pouvoir donner à ma fille? Incapable de résoudre cette question sur le champ, je l'écartai de mon esprit et m'accroupis à côté de Lourd.
« Écoute, murmurai-je. Les matelots ne comprennent pas ta musique, et elle les effraie. Si cela continue, ils risquent de... »
Je me tus. Je ne voulais pas l'inciter à craindre l'équipage. La peur constitue la meilleure fondation de la haine.
« Je t'en prie, Lourd, » repris-je, à court d'arguments, mais son regard resta obstinément braqué sur l'horizon.
La matinée passa pendant que j'attendais la venue d'Imbre. Devoir avait dû artiser des émotions rassurantes au simple d'esprit, mais celui-ci, buté, n'y avait accordé aucune attention. Je me tournais vers notre sillage et regardais les autres navires qui nous accompagnaient. Trois caracs nous suivaient comme de gros canards en ligne. Il y avait aussi deux grands canaux qui serviraient de moyens de communication entre les navires et permettraient aux nobles d'échanger des messages et des visites pendant le voyage. Ces petits bâtiments possédaient des rames en plus de leurs voiles et manœuvreraient leurs lourds cousins à l'entrée et à la sortie des ports encombrés. C'était une flottille substantielle que Castelcerf envoyait aux îles d'outre-mer. La pluie se changea en bruine, puis cessa, mais le soleil demeura caché derrière les nuages. Le vent soufflait toujours. Je m'efforçais d'en présenter l'aspect positif à Lourd.
Tu vois comme il nous pousse vite. Très bientôt, nous atteindrons les îles. Ce sera passionnant de découvrir un nouveau pays.
Mais le petit homme répondit seulement.
Il nous pousse de plus en plus loin de chez nous. Je veux rentrer.
Crible nous apporta le repas de midi, composé de pain dur, de poisson séché et de bière insipide. Le jeune garde devait savourer de se trouver sur le pont. Nous avions ordre de rester dans nos quartiers afin de ne pas gêner l'équipage. Naturellement, moins les deux groupes se côtoieraient, plus on réduirait les risques de friction. Cela allait sans dire, et nous le savions tous. Mes réponses laconiques n'empêchèrent pas Crible de jacasser. J'appris ainsi que les gardes étaient aussi indisposés et que certains qui souffraient du mal de mer affirmaient n'en avoir jamais été victimes jusque-là. Ces nouvelles m'inquiétèrent. Je me restaurai et réussis à conserver ce que j'avais ingéré, mais je ne parvins pas à convaincre Lourd de manger, ne fût-ce que quelques bouchées de pain. Crible prit nos écuelles et nous laissa. Quand Imbre et le prince arrivèrent enfin, une morne résignation avait eu raison de mon impatience et de ma colère. Pendant que Devoir s'adressait à Lourd, le vieil homme martisa rapidement qu'ils avaient le plus grand mal à quitter seuls la cabine. Outre Tram, Civil et Lest, pas moins de trois nobles étaient venus rendre visite au prince, puis s'étaient longuement attardés à bavarder. Comme il l'avait déjà dit, il n'y avait guère d'autre occupation à bord d'un navire. Les aristocrates qui accompagnaient Devoir n'avaient d'autre but que de s'insinuer dans ses bonnes grâces, et ils étaient prêts à profiter de toutes les occasions.
« Et quand travaillerons-nous à nos leçons d'art ?» lui demandai-je en chuchotant.
Il fronça les sourcils.
« Je doute que nous parvenions à trouver le temps d'en organiser beaucoup, mais je verrai ce que je peux faire. »
Devoir n'avait pas plus de succès que moi avec Lourd. Le petit homme continuait d'observer d'un air maussade l'horizon au bout de notre sillage, tandis que le prince lui parlait, la mine grave.
« Eh bien, nous avons au moins réussi à partir sans le seigneur doré, » dis-je à Imbre.
Il secoua la tête. « Avec beaucoup plus de difficultés que je ne l'avais prévu. On t'a raconté, je suppose, qu'il a bloqué le quai afin de pouvoir embarquer. Il a fallu l'intervention de la garde municipale et son arrestation pour y mettre un terme. »«
Vous l'avez arrêté ? » m'exclamai-je horrifié.
« Allons, du calme, mon garçon. Il est noble et son infraction mineure, et il recevra un traitement bien meilleur que le tien. En outre, on ne le retiendra que 2 ou 3 jours, le temps que tous les navires à destination des îles d'outre-mer quittent le port. Cela m'a paru la façon la plus simple de résoudre le problème qu'il posait. Je n'avais nulle envie de le voir monter à Castelserre pour exiger de moi des explications ou implorer une faveur de la reine. »
Elle sait pourquoi nous avons agi ainsi, n'est-ce pas ?
« Oui, même si cela ne lui plaît pas. Elle se sent redevable au fou. Mais n'aie pas d'inquiétude. J'ai placé tant d'obstacles sur le chemin de Cire Dorée qu'il lui sera très difficile, voire impossible, d'obtenir une audience avec elle. »
Je ne l'aurais pas cru pensable, mais mon accablement s'accrut encore. À l'idée du fou emprisonné, puis dédaigné par le trône de Castelserre, tout mon être se révoltait. Je savais comment Humbre s'y était pris. Un mot ici, une insinuation là, une rumeur selon laquelle Cire Dorée ne bénéficiait plus des bonnes grâces de la reine, et lorsqu'il sortirait de sa cellule, ce serait en paria de la bonne société, paria sans le sou et criblé d'énormes dettes. Je voulais seulement l'obliger à rester à terre pour le protéger, non le placer dans pareille position. J'exprimais mon sentiment à Humbre.
« Oh, ne t'en fais pas pour lui, Fitz. À t'écouter, parfois, on a l'impression que personne ne peut se débrouiller sans toi. Il est très capable et très astucieux. Il saura s'en tirer. Si je ne l'avais pas mis en si fâcheuse posture, nous l'aurions déjà à nos trousses. »
Bien qu'il dît la vérité, cela ne me consola guère.
« Le mal de mer de Lourdes ne durera pas, »
poursuivit Humbre d'un ton optimiste.
« Quand il sera passé, je répandrai le bruit que le serviteur du prince s'est pris d'affection pour toi. Cela te donnera une excellente raison de rester à ses côtés, jusque dans sa cabine voisine de celle de devoir. Ainsi, nous aurons peut-être plus de temps pour nous consulter. »
« Peut-être, » répondis-je sans entrain. Malgré le réconfort que l'adolescent s'efforçait d'apporter au petit homme, je ne percevais nul apaisement dans sa musique discordante, et mon moral s'en ressentait. La volonté aidant, je réussissais à me convaincre que les nausées de Lourdes étaient distinctes de mes propres sensations et ne m'affectaient pas, mais cela exigeait un effort constant.
« Es-tu sûr de ne pas vouloir retourner à la cabine ?»
demanda Devoir au simple d'esprit.
« Non, le plancher bouge tout le temps !»
Le prince eut l'air perplexe.
« Mais le pont bouge tout le temps ici aussi ?»
À son tour, Lourdes parut désorienté.
Non, c'est le bateau qui monte et qui descend sur l'eau. Ça me rend moins malade.
Je vois. Devoir abandonna tout espoir de lui démontrer son illusion. En tout cas, tu finiras par t'y habituer, et ton mal de mer s'en ira.
Ce n'est pas vrai,
répliqua Lourdes d'un ton lugubre.
Sada dit que tout le monde répète ça, mais que ce n'est jamais vrai. Elle est malade chaque fois qu'elle prend un bateau, et ça ne s'en va jamais. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu m'accompagner. »
Je commençais à éprouver une profonde aversion pour Sada, sans même l'avoir jamais rencontrée.
« Eh bien, elle se trompe, » intervint Humbre avec allant.
« Non, »
fit Lourdes, entêté.
« Regardez, je suis toujours malade. »
Et il se pencha par-dessus le bastingage, prit de haut le cœur, mais l'estomac vide.
« Ça lui passera, »
dit le vieil assassin, avec une conviction défaillante. « Auriez-vous des plantes susceptibles de le soulager ?» lui demandai-je. « Du gingembre, par exemple. » Humbre se figea un instant.
« Excellente idée, blaireau. En effet, je pense en avoir dans mes bagages. Je vais lui faire préparer une solide tisane au gingembre et je vous l'enverrai porter. »
Quand la chope arriva, elle flairait autant la valériane et la dormirelle que le gingembre. J'approuvais l'initiative d'Humbre. Le sommeil constituerait peut-être le meilleur remède aux nausées rebelles de Lourdes. Je lui présentais le breuvage en lui assurant avec aplomb qu'il s'agissait d'un antidote au mal de mer bien connu des marins et qui opérerait certainement sur lui.
Il examina toutefois la tisane d'un œil dubitatif. J'imagine que ma parole avait moins de poids que l'opinion de Sada. En but une gorgée, apprécia sa saveur épicée et l'avala tout entière. Hélas, peu après, il la rejeta aussi vite. Une partie passa par son nez, le gingembre piqua ses muqueuses sensibles, et dès lors il refusa avec la dernière énergie d'y goûter à nouveau, fût-ce à petite dose. J'avais embarqué 2 jours plus tôt, et j'avais l'impression d'avoir déjà passé 6 mois en mer. Le soleil perça enfin, mais le vent et les embruns tuèrent dans l'œuf la chaleur qu'il aurait pu dispenser. Pelotonné contre la lisse, emmitouflé dans une couverture de laine humide, l'ours sombra dans un sommeil agité. Il se mit à sursauter et à pousser des gémissements, prisonnier de cauchemars que balayait la musique de son mal-être. Je m'assis à côté de lui et me lançai dans un classement parfaitement inutile de mes sujets de préoccupation. Tram apparut alors. Je levai les yeux et il me salua gravement d'un signe de tête. Puis il se tourna vers le large et son regard se fixa au loin. Je l'imitai et repérai un oiseau de mer qui décrivait de grands cercles paresseux dans le ciel derrière nous. Je n'avais pas fait sa connaissance, mais il s'agissait assurément de risques. Le lien de vif entre l'homme et la mouette semblait tissé d'azur et d'eau indomptée, à la fois serein et libre. Avec bonheur, je savourais l'écho de leur plaisir commun, en m'efforçant de ne pas prêter attention à la douleur qu'il réveillait en moi. Je voyais la magie du vif à son état le plus naturel, échange de joie et de respect entre humain et animal où le cœur de Tram volait en compagnie de Risk. Je percevais leur communion et j'imaginais l'allégresse de l'oiseau à partager son vol avec son compagnon. C'est seulement en sentant mes muscles se relâcher que je pris conscience de l'attention qui m'habitait jusque-là. L'ours s'enfonça dans un sommeil plus profond, son visage se décrispa légèrement et le vent de sa chanson d'art souffla sur un ton moins sinistre. Le calme qui émanait de Tram nous toucha tous les deux, mais il me fallut du temps pour m'en rendre compte. Sa chaleureuse sérénité s'étendit autour de moi et dilua mon angoisse et ma lassitude. S'il se servait du vif pour obtenir cet effet, il l'employait d'une façon que je ne connaissais pas, aussi simple et naturelle que l'acte de respirer. Je m'aperçus que je lui souriais, et il me rendit mon sourire. Je vis l'éclat blanc de ses dents à travers sa barbe. « C'est une belle journée pour prier, » dit-il. « Mais c'est vrai de tous les jours, ou presque. »« Vous priez donc ?» Il hocha la tête et je demandai « Et quelle requête adressiez-vous au Dieu ?» Il haussa les sourcils. « Requête ? N'est-ce pas le but de la prière ? Obtenir des dieux qu'ils nous donnent ce que nous désirons ?» Il éclata de rire d'une voix grave, comme un vent d'orage, mais moins menaçante. « Certains prient ainsi, j'imagine. Moi non, plus maintenant. Comment ça ?»« Bah, les enfants prient sans doute de cette façon, pour retrouver une poupée égarée, pour que papa rentre avec une bonne pêche ou pour que personne ne s'aperçoive qu'ils ont négligé une corvée. Certains de savoir mieux que quiconque ce qui est bon pour eux, ils ne craignent pas de le demander au divin. Mais j'ai atteint l'âge d'homme depuis de nombreuses années et j'aurais honte de n'avoir pas acquis quelques bribes de sagesse. » Je trouvais une position plus confortable contre le bastingage. J'imagine que, lorsqu'on y est habitué, les mouvements d'un bateau peuvent avoir un effet reposant. Dans mon cas, toutefois, mes muscles s'efforçaient de les contrebalancer sans cesse et commençaient à me faire souffrir. « Eh bien, comment un adulte prie-t-il ? » Il me regarda d'un air amusé, puis s'assit à côté de moi. « Vous l'ignorez ? Comment vous y prenez-vous, alors ? » ?»« Je ne prie pas. » J'éclatai de rire après un instant de réflexion, sauf sous le coup de la terreur, à la manière des enfants. « Tirez-moi de là, et plus jamais je ne ferai de bêtises, par pitié, laissez-moi vivre. » Il joignit son rire au mien. « Ma foi, on dirait que vos prières ont été exaucées jusqu'ici. Et tenez-vous votre promesse au divin ? » Je secouais la tête avec un sourire repentant. Hélas, non. Je trouve simplement une nouvelle voie, ou faire la démonstration de ma stupidité.
Oui, comme tout le monde.
Partant de là, j'ai fini par comprendre que je n'étais pas assez sage pour demander quoi que ce soit au divin. Pourquoi priez-vous, dans ce cas, si vous ne désirez rien obtenir?
Eh bien, à mon sens, la prière consiste à écouter plus qu'à supplier. Et parvenu à l'âge que j'ai, je me rends compte qu'il n'en existe qu'une pour moi.
Il m'a fallu toute une vie pour la découvrir. Et elle apparaît à tous les hommes, je pense, pour peu qu'ils réfléchissent assez longtemps.
Et quelle est-elle?
Réfléchissez, répondit-il avec un sourire.
Il se leva lentement et parcourut l'horizon du regard.
Le vent gonflait les voiles des navires dans notre sillage comme le jabot de pigeons qui parade. Le spectacle était ravissant à sa façon.
J'ai toujours aimé la mer.
J'ai embarqué sur des bateaux avant même de savoir parler. Et je regrette que votre ami en fasse une si désagréable expérience.
Je vous en prie, dites-lui que son malaise passera.
J'essaie, mais il refuse de se laisser convaincre.
Quel dommage. Eh bien, bonne chance.
Peut-être se sentira-t-il mieux à son réveil.
Comme il s'éloignait, je me rappelais soudain que je voulais aborder une autre question avec lui.
Je me redressai et l'appelai. Tram !
L'Est vous accompagne-t-il ? Le garçon dont je vous ai entretenu. Il s'arrêta et se retourna.
Oui ? Pourquoi ?
Je lui fis signe de se rapprocher. Il s'agit de l'enfant avec lequel je vous avais demandé de parler, celui qui possède le vif, vous vous en souvenez ?
Naturellement. C'est pourquoi je me suis réjoui quand il m'a proposé de devenir mon page, si j'acceptais de le prendre comme élève. Comme si je connaissais le travail d'un page.
Il éclata de rire, puis reprit son sérieux devant mon expression grave.
Qu'y a-t-il ?
Je l'avais renvoyé chez lui. J'ai appris que ses parents ne lui ont pas donné la permission de se rendre à Castelserre. Il croit qu'il a fait une fugue et il se ronge les sangs depuis son départ. Tram garda le silence, impassible, tandis qu'il analysait la nouvelle. Enfin, il secoua la tête d'un air de regret.
Il doit être terrible d'affronter la disparition d'un être cher et de rester dans l'incertitude de son sort.
L'image de patience surgit dans mon esprit. Avait-il voulu aiguillonner mes remords? Peut-être pas, mais la critique, même inconsciente, m'irrita néanmoins. J'avais ordonné à l'Est de rentrer chez ses parents. Il leur doit son travail jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité ou qu'il le dégage de sa dette.
Certains le disent, en effet,
répondit Tram d'un ton qui laissait entendre un possible désaccord.
Mais les parents peuvent trahir un enfant, et dans ces conditions, il ne leur doit rien, à mon avis. En cas de mauvais traitement, il a raison de les quitter le plus vite possible.
Mauvais traitement ? J'ai connu le père de l'Est de longues années. Certes, il doit infliger des taloches ou de solides réprimandes si son fils les mérite. Mais si l'Est prétend qu'on le bat ou qu'on le néglige, je crains qu'il ne mente.
Burick n'agit pas ainsi.
J'étais effondré que le garçon pût porter de telles accusations contre son père. Tram secoua lentement la tête. D'un coup d'œil, il s'assura que l'ours dormait toujours. Puis, il murmura.
Il existe d'autres formes de négligence et de brimade. Refuser ce qui s'épanouit chez son enfant. Interdire la magie qu'il possède sans l'avoir demandé. Lui imposer une ignorance qui l'expose au danger et lui dire « Tu n'as pas le droit d'être ce que tu es. Tout cela est impardonnable. »
Il s'exprimait sans violence, mais sans compassion non plus.
« Il élève son fils comme il a été élevé lui-même. »
Répliquai-je avec raideur. J'éprouvais une impression singulière à défendre Burick, alors que je lui avais reproché si souvent la façon dont il m'avait traité.
et il n'a rien appris, ni de ses déboires, avec sa propre ignorance, ni des malheurs qu'elle a valus au premier enfant dont il a eu la charge. Je voudrais le prendre en pitié, mais quand je songe à ce qu'aurait pu être votre vie si vous aviez reçu une éducation convenable dès votre jeune âge. » Je l'interrompis sèchement. « Burick m'a parfaitement éduqué. Il m'a pris sous son aile alors que nul ne voulait de moi, et j'interdis qu'on dise du mal de lui. »
Tram recula d'un pas, et une ombre passa sur son visage.
« Vous avez le meurtre au fond des yeux, » fit-il à mi-voix.
J'eus l'impression d'une douche glacée, mais, avant que j'eusse le temps de lui demander ce qu'il voulait dire, Tram me salua gravement de la tête. « Nous reviendrons peut-être sur ce sujet plus tard. » Et il s'éloigna. Je reconnus sa façon de marcher. Il ne fuyait pas. Il s'écartait de moi comme Burick d'un animal devenu méchant à force de mauvais traitements et dont il faut reprendre tout le dressage pas à pas. Je m'en sentis mortifié. Lentement, je me rassis près de Lourd, puis je me laissai aller contre le bastingage et fermai les yeux. Peut-être parviendrais-je à somnoler un peu pendant qu'il dormait. Mais aussitôt, ou du moins en eus-je le sentiment, son cauchemar se mit à rôder autour de moi. Les paupières closes, j'eus la sensation de descendre dans la salle commune bruyante et enfumée d'une auberge de bas étage. La musique, empreinte de nausées de Lourd, s'engouffra dans mon esprit tandis que son angoisse amplifiait le tangage du navire, transformé en plongeon et en jaillissement terrifiant et désordonné. J'ouvris les yeux. Mieux valait manquer de repos que me laisser engloutir dans un rêve aussi insupportable. Crible m'apporta une gamelle de ragoût saumâtre et une chope de bière plate. Lourd resta plongé dans le sommeil. Le jeune garde avait pris aussi sa ration, préférant sans doute manger sur le pont, à l'air libre, qu'à l'étroit dans la cale. Il m'arrêta de la main alors que je m'apprêtais à réveiller Lourd pour partager le repas. « Laisse-le roupiller, s'il y arrive. Il a plus de chance que les gardes en dessous. »
« Pourquoi donc ?»
Il haussa les épaules d'un air lugubre.
« Je ne sais pas exactement. Ça ne tient peut-être qu'à la promiscuité. Mais tout le monde est sur les nerfs et personne ne dort bien. La moitié des gars évitent de manger par peur de tout vomir, et pourtant certains ont l'habitude des voyages en mer. Si par bonheur on réussit à s'assoupir, on se fait réveiller par quelqu'un qui braille dans son sommeil. Ça se tassera peut-être d'ici quelques jours, mais pour le moment, j'aimerais mieux descendre dans une fosse pleine de molosses enragés que dans notre cale. Deux bagarres ont éclaté il y a quelques minutes entre des gars qui voulaient leur rata les premiers. »
Je hochai la tête d'un air philosophe en tâchant de dissimuler mon inquiétude. La tension diminuera d'ici peu, j'en suis sûr. Les premiers jours d'une traversée sont toujours difficiles. Je mentais éhontément. En règle générale, tout se passe pour le mieux au début, tant que l'attrait de la nouveauté n'est pas retombé et que l'ennui n'a pas gagné les hommes. Les cauchemars de Lourd empoisonnaient le sommeil des gardes. Je m'efforçais de me montrer de bonne compagnie en attendant que Crible s'en aille. Puis, dès qu'il fut parti avec nos gamelles vides, je me penchai vers Lourd et lui secouai l'épaule. Il se réveilla en sursaut, avec un petit cri plaintif, semblable à celui d'un enfant effrayé.
« Chut, tout va bien. Écoute-moi, Lourd. Non, tais-toi et écoute. C'est important. Il faut que tu arrêtes ta musique, ou au moins que tu l'artisses plus bas. »
Je l'avais tiré du sommeil sans douceur, et son visage se plissa comme un pruneau séché sous l'effet de la colère et de l'indignation. Des larmes brillèrent dans ses petits yeux ronds.
« Je ne peux pas !»
s'exclama-t-il d'un ton geignard.
« Je vais mourir !»
Les matelots qui travaillaient sur le pont se tournèrent vers nous, la mine sombre. L'un d'eux marmonna des mots incompréhensibles d'un air furieux et fit dans notre direction un signe de la main, destiné à le protéger de la malchance. À un niveau instinctif, ils avaient identifié la source de leur malaise. Reniflant la moue boudeuse, Lourd rejeta obstinément l'idée d'atténuer sa chanson ou de surmonter son mal de mer et sa peur. Et je ne pris la mesure de la puissance incontrôlée de son art qu'au moment où je cherchais à contacter le prince au milieu de la cacophonie de ses émotions. Imbre et Devoir avaient sans doute renforcé leurs murailles sans même s'en rendre compte, et les artisés revenaient à hurler pour se faire entendre dans une tempête. Quand Devoir constata la difficulté qu'il avait à me comprendre, il connut un instant d'affolement. La courtoisie interdisait d'abandonner ses convives au milieu du repas. Toutefois, il parvint à prévenir Humbre de la situation. Ils précipitèrent la fin du déjeuner et sortirent en hâte pour me rejoindre sur le pont. L'ours était de nouveau assoupi. Le vieil assassin chuchota.
« Je puis confectionner un puissant soporifique que nous lui ferons avaler de force. »
Le prince fit la grimace.
« Je préférais éviter le recours à la violence. Il n'oublie pas facilement les mauvais traitements.
En outre, qui gagnerions-nous?
Il dort en ce moment même. Or, il aimait toujours une musique à tourmenter les morts. »
« Mais en le plongeant dans un sommeil assez profond, » fit Humbre sans conviction.
« Nous mettrions sa vie en danger, » intervins-je, « sans garantie que sa chanson cesserait. »
« Il n'y a qu'une solution, » dit le prince à mi-voix. « Faire demi-tour et le ramener à Castelcerf, le débarquer. »«
Impossible !»
Le vieillard était épouvanté.
« Nous perdrons trop de temps, et nous aurons peut-être besoin de ses capacités face au dragon. »
« Seigneur Humbre, » nous sommes témoins des effets de ses capacités, et nous constatons qu'elles n'obéissent à aucune discipline, et que nous ne les maîtrisons pas. »
Un ton nouveau perçait dans la voix de Devoir, un ton royal, qui me fit penser à Vérité et à sa façon de peser soigneusement ses mots. À ce souvenir, je souris, et m'attirai un froncement de sourcils perplexe de la part de l'adolescent. Je me hâtais d'abonder dans son sens. Actuellement, nul ne commande la force de l'ours, pas même lui. Il ne nous veut pas de mal, mais sa musique représente un péril pour nous tous. Songez aux dégâts qu'il pourrait provoquer en cas de vraie colère ou de blessure grave. Même si nous parvenons à calmer son mal de mer et son chant, l'ours demeurera une arme à double tranchant. Si nous ne trouvons pas un moyen de juguler sa puissance, ses émotions resteront une menace pour nous. La prudence voudrait peut-être que nous le ramenions à terre.
Il n'est pas question de faire demi-tour.
Puis, comme Devoir et moi le dévisagions, interloqués par sa violence, Humbre poursuivit d'un ton implorant.
Laissez-moi encore une nuit pour réfléchir, je trouverai une solution, j'en suis sûr, et cela lui donnera une nuit de plus pour s'habituer au navire. À l'aube, ses nausées auront peut-être disparu.
Très bien, répondit le prince au bout d'un moment.
À nouveau, je perçus une inflexion souveraine dans sa voix. S'y entraînait-il ou bien entrait-il peu à peu dans son rôle de monarque? Dans un cas comme dans l'autre, je me réjouissais de ce changement. J'ignorais s'il avait eu raison ou non d'accorder du temps à Humbre, mais il avait pris cette décision seul et avec assurance. Cette confiance en soi était précieuse. L'ours se réveilla quelque temps plus tard, toujours malade. À part moi, je songeais qu'il devait sans doute son état de faiblesse, autant à la faim qu'à son mal de mer. Ses efforts pour vomir lui avaient courbaturé les muscles du ventre et mis la gorge à vif. Il n'accepta d'avaler que de l'eau, et encore, de mauvaise volonté. Le temps n'était ni chaud ni froid, mais le petit homme grelottait dans ses vêtements humides, qui, en outre, irritaient sa peau. Néanmoins, quand je proposais que nous nous rendions dans sa cabine pour qu'il se change ou se réchauffe, je me heurtais à une résistance hargneuse. L'envie me démangeait de le prendre sous le bras et de l'emporter au sec, mais je savais qu'il crierait, se débattrait, et que sa musique se déchaînerait encore davantage. Toutefois, je craignais qu'il ne tombe bientôt vraiment malade. Les heures s'écoulèrent lentement dans une atmosphère pénible dont nous ne fîmes pas seuls les frais. À deux reprises, le lieutenant laissa exploser sa colère contre un équipage à l'humeur massacrante. La seconde, il menaça un matelot du fouet s'il ne montrait pas plus de respect. Je sentais la tension monter. En fin de soirée, la pluie revint sous la forme d'une brume qui détrempait tout. J'avais l'impression que je portais mes vêtements mouillés depuis une semaine. Je plaçais ma couverture sur les épaules de l'ours en espérant que, malgré son humidité, la laine épaisse le réchaufferait un peu. Dans son sommeil haché, il ne cessait de s'agiter comme un chien hanté par des cauchemars. J'avais souvent entendu la fameuse plaisanterie « On ne meurt pas du mal de mer, mais on le regrette. » Je me demandais à présent si elle ne renfermait pas un fond de vérité. Combien de temps son organisme supporterait-il pareil traitement? Mon vif me prévint de la présence de trames
avant que sa large silhouette n'apparaisse dans la lueur de la lanterne. Il s'arrête près de moi.
« Vous êtes fidèle, Tom Blaireau, » dit-il en s'accroupissant. « On vous a confié une tâche certainement désagréable, mais vous ne l'avez pas délaissée un seul instant. »
Le compliment me toucha et me gêna en même temps. Je le laissai passer.
« C'est ma responsabilité, » répondis-je, « et vous la prenez au sérieux. »
Burick m'a éduqué ainsi, fis-je, avec une pointe d'humeur. Il éclata d'un rire désinvolte.
Et il vous a appris aussi à vous accrocher à un grief comme un chien de combat au mufle d'un taureau. Lâchez prise, fit ce chevalerie loin-voyant. Je ne parlerai plus de lui.
J'aimerais que vous cessiez de prononcer ce nom à tort et à travers, dis-je, après un lourd silence.
Il vous appartient. C'est une partie de vous qui manque. Vous devriez la récupérer.
L'homme qui le portait a péri. Et... cela vaut mieux pour tout ce que j'aime.
Pour eux, vraiment, ou pour vous ?
Demanda-t-il d'un ton neutre. Je ne le regardais pas. Par-delà la poupe, j'observais les navires qui nous suivaient dans la nuit brumeuse. Ils m'apparaissaient comme des masses obscures, et leurs voiles cachaient des pans de ciel. Leurs lanternes montaient et descendaient comme de lointaines étoiles en mouvement.
Qu'attendez-vous de moi, Tram ? Fis-je enfin. Que vous réfléchissiez, c'est tout,
répondit-il d'un ton apaisant.
Je ne cherche pas à exciter votre colère, même si j'ai du talent, semble-t-il, à moins que cette colère ne suppure déjà en vous et que je ne sois le couteau qui perce l'abcès pour lui permettre de se vider.
Je me tus et secouai la tête sans m'inquiéter qu'il me vît ou non. D'autres soucis retenaient mon attention, et je souhaitais qu'il me laissât seul. Comme s'il avait lu mes pensées, il reprit.
« Mais ce soir, je n'avais pas l'intention de vous inciter à l'introspection. Je venais vous proposer un peu de répit. Je veillerai sur l'ours, si vous désirez prendre quelques heures de repos. J'ai le sentiment que vous n'avez guère dormi depuis le début de votre garde. »
J'avais envie de pouvoir me déplacer librement sur le bateau, afin de me rendre compte par moi-même de l'humeur qui y régnait. Et plus encore, j'aspirais à dormir un peu sur mes deux oreilles. L'offre de Tram était terriblement alléchante. Elle éveilla aussitôt mes soupçons.
Pourquoi ? Il sourit. Avez-vous donc si peu l'habitude qu'on se montre aimable avec vous ?
La question me prit au dépourvu et m'ébranla. Après un instant de silence, je répondis.
C'est parfois l'impression que cela peut donner, j'imagine.
Je me redressai à mouvement lent, car le froid nocturne m'avait ankylosé. L'ours marmonna des mots incompréhensibles dans son sommeil agité. Je levai les bras au-dessus de ma tête et fis jouer les muscles de mes épaules tout en envoyant une pensée à devoir.
Tram propose de me remplacer quelque temps au chevet de l'ours. Puis-je le lui autoriser ?
Naturellement. Il paraissait surpris de ma demande. Mon prince accordait parfois sa confiance un peu trop facilement.
Veuillez en informer Imbre, je vous prie.
Je sentis son acquiescement. J'achevais de m'étirer, puis dis à Tram.
J'accepte de grand cœur et je vous remercie.
Il s'installa avec précaution à côté de l'ours et sortit de sa chemise le plus petit biniou de mer que j'eusse jamais vu. Cet instrument est sans doute le plus répandu dans toutes les marines, car il résiste aussi bien aux intempéries qu'aux mauvais traitements. Il ne faut guère d'entraînement pour apprendre à en tirer une mélodie simple, mais un musicien doué peut divertir une assistance aussi bien qu'un ménestrel de Castelserre. Je ne m'étonnais pas d'en voir un entre les mains de Tram. Il avait sans doute conservé bien des habitudes de son métier de pêcheur. Il me fit signe que je pouvais le laisser. Comme je m'éloignais, j'entendis s'élever une note murmurante comme une brise légère, et il se mit à jouer tout bas une mélodie enfantine. Son instinct lui avait-il soufflé cet air pour apaiser l'ours ? Pourquoi n'avais-je pas songé moi-même à la musique pour le réconforter ? Je soupirais. Je commençais à trop m'installer dans mes habitudes de pensée. Je devais réapprendre la souplesse. Je me rendis à la cambuse dans l'espoir d'obtenir quelque chose de chaud à manger. Mais je n'eus droit qu'à du pain dur et deux doigts de fromage.
Le coq, une femme, m'apprit que je devais m'estimer heureux. Elle n'avait pas de vivres à gaspiller à bord de ce sabot surchargé des eaux et surpeuplé. J'aurais souhaité un peu d'eau douce pour nettoyer le sel de mon visage et de mes mains, mais elle me répondit que je pouvais toujours me l'imaginer. J'avais eu ma ration pour la journée, non? Eh bien, je devais me contenter de ce qu'on me donnait. Ces gardes, ils n'avaient aucune idée de la discipline qu'exigeait la vie à bord d'un navire. Je battis en retraite devant sa langue acérée. J'aurais voulu rester sur le pont pour me restaurer, mais je ne me trouvais pas sur mon territoire, et les matelots étaient d'humeur à me le faire sentir. Je descendis donc dans la cale, où mes semblables ronflaient, ronchonnaient et jouaient aux cartes à la lumière dansante d'une lanterne. L'odeur de nos quartiers ne s'était pas améliorée depuis notre départ, et je constatais que Crible n'avait pas exagéré la mauvaise disposition des hommes. La remarque que fit l'un d'eux sur le « retour de la garde malade » aurait justifié à elle seule une bagarre si j'avais été d'humeur à la déclencher. Je n'en avais nul désir, et je réussis à rester sourd à ses insultes. Je mangeai rapidement et sortis ma couverture de mon coffre. Mais je ne trouvais nulle part où m'étendre complètement. Au milieu des gardes endormis par terre, et je me couchais parmi eux en chien de fusil. J'aurais préféré m'adosser à une cloison, mais je dus me faire une raison. J'ôtai mes bottes et desserrai ma ceinture. Un de mes voisins se retourna en grommelant, tandis que je m'efforçais de m'installer le plus confortablement possible et de tirer ma couverture sur moi. Je fermai les yeux et respirai profondément, appelant le sommeil de mes vœux, heureux de pouvoir enfin me reposer. Au moins, dans mes rêves, j'échapperais au cauchemar de la réalité. Alors que je franchissais la pénombre du territoire qui sépare l'état de veille du pays des songes, il me vint à l'esprit que je tenais peut-être la solution à mes problèmes. Au lieu de sombrer complètement, je me laissais glisser à l'oblique, en quête d'ortie. La tâche se révéla plus ardue que je ne l'avais prévu. La mélodie de l'ours était omniprésente et, mi orientée, s'apparentait à traverser un roncier dans le brouillard. À peine cette image me vint-elle que des tiges épineuses se mirent à pousser sur les bruits qui composaient la lugubre harmonie. La musique adoucit les mœurs en général, mais celle-ci blessait. J'avançais d'un pas chancelant dans un miasme de nausée, de faim et de soif, le dos raidi par le froid, les tempes martelées par la cacophonie qui me tiraillait. Pour finir, je m'arrêtais. « C'est un rêve, » fis-je, et les ronces narquoises se tordirent avec dérision à ces mots. Comme je réfléchissais à ma situation, elles se mirent à s'entortiller autour de mes jambes. « C'est un rêve, » répétais-je, « rien ne peut m'y affecter. » Mais je n'eus pas gain de cause. Je sentis les épines me piquer à travers mes chausses et je tentai de reprendre ma marche. Elles resserrèrent leur prise sur moi et m'empêchèrent de bouger. Je m'immobilisai de nouveau en m'efforçant de conserver mon sang-froid. Du rêve suggéré par l'art de l'ours, j'avais fait mon propre cauchemar. Je me redressai, luttant contre les tiges barbelées qui s'acharnaient à me terrasser, portai la main à ma hanche et dégainai l'épée de vérité. J'en frappai les ronces qui lâchèrent prise en se tordant comme des serpents coupés. Reprenant courage, je donnai à l'arme une lame de feu qui brûla les plantes agitées de contorsion et apporta quelques lumières dans le brouillard épais. « Il faut monter, » me dis-je. « La brume stagne au fond des vallées. Les sommets seront dégagés. » Et il en fut ainsi. Quand j'émergeais enfin des exhalaisons d'art de l'ours, je me retrouvai à la frontière du rêve d'ortie. Une tour de verre se dressait en haut de la colline que je gravissais. Je me rappelais le conte dont elle était issue. Sur le versant s'entrecroisaient d'innombrables fils, et comme je m'avançais, ils collaient à mes bottes comme des toiles d'araignée. Ortie avait connaissance de ma présence, j'en étais sûr, mais elle n'intervint pas pour m'aider, et je pataugeais, enfoncé jusqu'aux chevilles, dans l'enchevêtrement qui représentait toutes les promesses que les soupirants mensongers avaient faites à la princesse et qu'ils n'avaient pas tenues. Dans l'histoire, seul un homme au cœur sincère pouvait suivre le chemin sans trébucher. J'avais repris ma forme de loup. Les filaments gluants empêtrèrent bientôt mes quatre pattes et je dus m'arrêter pour les arracher avec les dents. Curieusement, ils avaient un goût anisé, plutôt agréable, en petite quantité, mais écœurant à pleine bouchée. Quand j'atteignis enfin la tour de verre,
La salive dégouttait de ma gueule et détrempait la fourrure de mon poitrail. Je m'ébrouai en projetant des gouttelettes de bave, puis demandai à Ortie.
« Tu ne m'invites pas à monter. »
Elle ne répondit pas. Accoudée à la rambarde de son balcon, elle contemplait le paysage. Je me retournai pour observer les ronces qui s'agitaient dans les bancs de brume au fond des vallées. Le brouillard ne se rapprochait-il pas subrepticement? Comme Ortie persistait à feindre de ne pas me voir, je fis le tour de l'édifice au petit trot. Dans le conte, nulle porte ne le perçait, et elle s'était montrée fidèle à l'histoire. Cela signifiait-il qu'un amant l'avait trompée? Mon estomac se noua, et l'espace d'un instant, je perdis de vue le but de ma visite. Revenu à mon point de départ, je m'assis et levai le regard vers la silhouette au balcon.
« Qui t'a trahi ? »
demandai-je. Elle garda les yeux fixés sur l'horizon, et je crus qu'elle ne répondrait pas. Puis, tout à coup, sans me regarder, elle dit
« Tout le monde, va-t'en. »
« Si je m'en vais, comment puis-je t'aider ?»«
Tu ne peux pas. Tu me le répètes assez souvent. Alors autant que tu t'en ailles et que tu m'abandonnes, comme tous les autres. »
« Qui t'a abandonné ?»
Cette question me valut un coup d'œil furieux, et Ortie déclara d'une voix empreinte de douleur.
Naturellement, j'aurais été bien bête de croire que tu t'en souviendrais. Mon frère, pour commencer, Lest, dont tu affirmais qu'il rentrerait bientôt à la maison. Eh bien, il n'est pas rentré. Du coup, mon père a stupidement décidé de se mettre à sa recherche, comme si on pouvait rechercher quelqu'un avec une vue aussi basse. Nous avons tenté de le dissuader, mais il est parti quand même. Nous ignorons ce qui s'est produit ensuite, mais son cheval est revenu sans lui. J'ai enfourché ma propre monture, sans écouter ma mère qui me hurlait de rester. J'ai suivi les traces et j'ai trouvé papa au bord de la route, couvert de sang et de contusions, qui essayait de retourner chez nous sur sa seule jambe valide. Je l'ai ramené et ma mère m'a encore réprimandé de lui avoir désobéi. Maintenant, mon père demeure au lit sans rien faire que regarder le mur, et il ne parle à personne. Ma mère nous a interdit à mes frères et moi de lui apporter de l'eau de vie, si bien qu'il refuse de nous adresser la parole et de nous raconter ce qui lui est arrivé, et ma mère nous en veut à tous comme si c'était ma faute. »
Pendant cette tirade, les larmes avaient jailli de ses yeux. Elles coulaient sur son menton, tombaient sur ses mains et ruisselaient le long de la tour. Elles se solidifièrent lentement en longs fils de chagrin couleur d'opale. Je me dressai sur mes pattes arrière et tentai de m'y agripper. Mais trop lisse et peu épais, les filaments n'offraient aucune prise. Je me rassis avec une impression de grand âge et d'inutilité. Je m'efforçai de me convaincre que le malheur qui régnait chez Molly n'avait rien à voir avec moi, que je n'en étais pas responsable et ne pouvais y porter remède. Pourtant, les racines du mal étaient profondes. Au bout d'un moment, Ortie me regarda avant d'éclater d'un rire amer.
« Eh bien, fantôme de loup, tu ne réponds pas que tu ne peux pas m'aider? N'est-ce pas ta formule habituelle ?»
Comme je restais muet, pris au dépourvu, elle reprit d'un ton accusateur.
« Mais à quoi bon me fatiguer à te parler? Tu m'as menti. Tu as prétendu que mon frère allait rentrer à la maison. »
Je recouvrai enfin l'usage de ma langue.
Je le croyais. Je lui avais ordonné de retourner chez lui, et je pensais qu'il avait obéi.
Eh bien, il en avait peut-être l'intention. Comment savoir s'il ne s'est pas mis en route, et si des voleurs ne l'ont pas tué, ou s'il ne s'est pas noyé dans une rivière? Tu n'as même pas songé, j'imagine, qu'à 10 ans, il était un peu jeune pour voyager seul? Qu'il aurait été plus sûr de nous le ramener au lieu de le renvoyer simplement? Non, le dérangement aurait été trop grand pour toi.
Ortie, arrête. Laisse-moi parler. Lest va bien. Il est vivant et ne court aucun danger. Il se trouve toujours auprès de moi.
Je m'interrompis pour reprendre mon souffle, épouvanté par ce qu'entraînaient inéluctablement ces mots. « Je regrette, Burick, me dis-je. Voici toute la souffrance que j'ai toujours voulu t'épargner, bien ficelée dans un petit paquet de malheurs pour toi et les tiens. » Car Ortie demanda, c'était inévitable. Et où peut-il bien ne courir aucun danger? Comment être sûr qu'il ne risque rien? Comment même être sûr de ton existence? Qui sait si je ne t'ai pas créé comme tout ce qui nous entoure? Regarde-toi, homme loup, tu n'as aucune réalité, et tu me berces de faux espoirs.
Je n'ai pas la réalité que tu vois, répondis-je d'une voix lente, mais je suis bien réel. Et il était une époque où ton père me connaissait.
Il était une fois, veux-tu dire? Répliqua-t-elle avec mépris. Encore une fable de fantôme de loup. Va-t'en avec tes contes à dormir debout.
Elle prit une inspiration hachée, tandis que de nouvelles larmes inondaient ses joues.
Je ne suis plus une gamine. Tes histoires ridicules ne m'aident en rien.
Je compris alors que je l'avais perdue. J'avais perdu sa confiance, son amitié. Jamais je ne connaîtrai ma fille en tant qu'enfant. Une tristesse accablante m'envahit, où se mêlait la musique des ronces qui grandissaient. Je jetai un regard derrière moi. Les tiges épineuses et le brouillard avaient gagné du terrain. Mon propre rêve se faisait-il plus menaçant, ou bien la mélodie de l'ourre devenait-elle encore plus effrayante? Je l'ignorais.
Et dire que je venais requérir ton aide,
murmurai-je avec amertume.
Mon aide?
Répéta Horty d'une voix étranglée. J'avais parlé tout haut sans le vouloir.
Je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, je le sais.
En effet.
Son regard me traversait comme si je n'existais pas.
Mais de quoi s'agit-il?
D'un rêve, ou plus précisément, d'un cauchemar.
Je croyais que tu te voyais toujours prêt à tomber dans un précipice.
Elle paraissait intriguée.
« Il n'est pas question de moi, mais de quelqu'un d'autre. Il a sombré dans un cauchemar très puissant, à tel point qu'il déborde de lui et contamine le sommeil de ceux qui l'entourent. Il met leur vie en danger, et je ne le pense pas capable de maîtriser son rêve. »«
Eh bien, réveille-le »
fit-elle avec dédain.
« Cette solution n'opérera qu'à court terme. Il m'en faut une plus définitive. »
Un bref instant, j'envisageais de lui dire que le cauchemar menaçait aussi l'existence de l'Est, mais j'écartais cette idée. L'effrayer ne servirait à rien, d'autant plus que je ne savais pas si elle pouvait venir à ma rescousse.
Qu'attendais-tu de moi?
Que tu m'aides à m'introduire dans son rêve et à le changer. À l'apaiser, à convaincre mon ami qu'il n'a rien à craindre de ce qui lui arrive, que tout ira bien. Ces cauchemars se dissiperaient peut-être alors, et nous aurions enfin tous le loisir de nous reposer.
Comment m'y prendrais-je?
Elle ajouta plus sèchement.
Et d'abord, pourquoi le ferais-je? Qu'as-tu à me proposer en échange, fantôme de loup?
Nous voir réduits à marchander me faisait horreur. Mais j'emportais seul la responsabilité. Le plus cruel de l'affaire était que mon unique monnaie d'échange mettrait son père au supplice et susciterait en lui les plus terribles remords. D'une voix lente, je répondis.
« Pour le comment? Tu possèdes un très grand talent dans la magie qui permet de pénétrer dans les rêves des autres et de les modifier, assez grand peut-être. » pour remodeler celui de mon ami, malgré son pouvoir considérable et sa profonde terreur.
Je ne dispose d'aucune magie?
Je poursuivis comme si je n'avais rien entendu.
Quant au pourquoi, je t'ai affirmé que l'Est se trouve près de moi et ne court pas de danger. Tu ne me crois pas, et je ne te le reproche pas. Car je me suis trompé en te garantissant son retour. Mais je vais te confier un message à répéter à ton père. Ce sera douloureux pour lui. Toutefois, quand il l'entendra, il comprendra que je dis la vérité, que ton frère est sain et sauf auprès de moi.
Très bien. Le message ?
Un bref instant, l'éducation d'Imbre prit le dessus, et je songeais
a exigé qu'elle m'aide d'abord à traiter lourd. Puis, je rejetais catégoriquement cette idée. Ma fille me devait ce que je lui avais donné, c'est-à-dire très précisément, rien. Peut-être aussi craignais-je, si je me taisais alors, de perdre tout courage, car j'hésitais autant à prononcer ces paroles qu'à toucher de la langue une braise ardente. Je me lançai.
Dis-lui que tu as rêvé d'un loup avec un piquant de porc-épic dans la babine, et que ce loup a déclaré « Comme toi, jadis, je protège et je guide aujourd'hui ton fils. Je le défendrai contre tout péril, et une fois ma tâche achevée, je te le ramènerai vivant et en bonne santé. »
J'avais camouflé la substance de mon message du mieux possible, étant donné les circonstances. Pourtant, Horty toucha bien près de la vérité en demandant
« Mon père s'est occupé de ton fils autrefois ?»«
Il y a des décisions plus faciles à prendre si on ne se laisse pas le temps de réfléchir. »
« Oui, »
répondis-je, mentant à ma fille,
« c'est cela. »
Je me tus pendant qu'elle ruminait ce qu'elle venait d'apprendre. Lentement, sa tour de verre se mit à fondre et à se résorber en eau qui courut entre mes pattes, tiède et inoffensive, jusqu'à ce que le balcon arrive au niveau du sol. Elle me tendit la main pour que je l'aide à enjamber la balustrade. Je la saisis et touchai ainsi, sans pourtant la toucher, ma fille pour la première fois de sa vie. Ses doigts hâlés s'appuyèrent un instant sur ma main aux griffes noires, puis elle s'écarta de moi. Elle observa le brouillard et les ronces qui se rapprochaient de nous.
« Je n'ai jamais pratiqué une telle opération, tu le sais ?»«
Moi non plus, »
avouai-je.
« Avant de nous aventurer dans son rêve, parle-moi de ton ami. »
La brume et les épines montaient vers nous. Quoi que je lui apprenne sur Lourdes, je trahirais en secret. Toutefois, la laisser dans l'ignorance risquait de nous mettre tous en danger. En outre, je n'avais aucune maîtrise de ce que Lourdes lui révélerait sous l'emprise de son cauchemar. Un fugitif instant, je me demandais si je n'aurais pas dû consulter Imbre ou Devoir avant de requérir l'aide d'Horty. Puis, j'eus un sourire farouche. Étais-je maître d'art, oui ou non? Dans ce domaine, la décision ne relevait que de moi. J'expliquai donc à ma fille que Lourdes était un simple d'esprit, un homme avec le cœur et l'esprit d'un enfant, mais la puissance d'une armée en matière d'art. Je lui dis même qu'il servait le prince loin-voyant et qu'il voyageait en sa compagnie à bord d'un navire. Je lui parlais de sa musique accablante et de ses rêves qui sapaient désormais le moral de l'équipage et des passagers. J'évoquais sa conviction que ses nausées ne cesseraient jamais et qu'il finirait par en mourir. Et, tandis que je lui livrais ces informations, les ronces croissaient et se tendaient vers nous. Horty tira promptement les conclusions de mes révélations. Je me trouvais à bord du bateau et par conséquent son frère aussi, embarqué avec le prince loin-voyant. Étant donné son existence campagnarde, que savait-elle de l'anarchesca et de la quête qu'elle avait imposée à Devoir? Je ne posais pas longtemps la question. Elle emboîta toutes les pièces les unes dans les autres. « Ainsi, ce dragon noir sur lequel l'argenté t'interroge toujours, c'est celui que le prince doit tuer ?»«
Ne prononce pas son nom. »
fis-je d'un ton implorant. Elle m'adressa un regard dédaigneux qui se moquait de mes craintes infantiles.
« Nous y sommes !»
murmura-t-elle, et les ronces furent sur nous. Avec un bruit crépitant, elles s'enroulèrent autour de nos chevilles, puis montèrent à nos genoux, comme des flammes qui gravissent un arbre. Les épines s'enfoncèrent dans notre chair, puis un brouillard épais s'éleva autour de nous, suffoquant, menaçant.
« Qu'est-ce que cela ?»
s'exclama Horty d'un ton agacé. Puis, comme la brume la cachait à mes yeux, elle lança.
« Arrête, fantôme de loup, arrête tout de suite! Tout ça vient de toi, c'est toi le responsable de cette pagaille, fais-la cesser !»
Et elle m'arracha à mon rêve. J'eus l'impression qu'on m'enlevait brutalement mes couvertures. Mais son initiative me bouleversa beaucoup plus profondément par le souvenir qu'elle suscita en moi. Souvenir que je reconnus sans toutefois le reconnaître. En un autre temps, une femme plus âgée
ôtait de mes petits doigts potelés un objet brillant qui me fascinait, avec ces mots.
« Non, Cupette, ce n'est pas pour les enfants. »
Violemment expulsé de mon propre rêve, je restai le souffle coupé, puis nous plongeâmes aussitôt dans celui de l'ours. Le brouillard et les ronds s'évanouirent, et l'eau froide et salée se referma sur moi. Je me noyais, et malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à regagner la surface. Soudain, une main saisit la mienne, et tout en me hissant à sa hauteur, Ortie s'exclama d'un ton agacé.
« Quel crédule tu fais ! C'est un rêve et rien d'autre. À présent, il m'appartient, et dans mes songes, on peut marcher sur les vagues. Tiens !»
Il en fut comme elle l'avait dit, ce qui ne m'empêcha pas de demeurer près d'elle et de lui tenir la main. La mer s'étendait d'un horizon à l'autre, scintillante et sans trace de terre. La musique de l'eau remplaçait le bruit du vent. Les yeux plissés, j'observais les ondes qui ne conservaient nulle empreinte en me demandant comment nous allions retrouver le petit homme. Mais Ortie serra ma main et annonça, haut et fort pour se faire entendre par-dessus la mélodie affolée.
« Nous sommes tout près de lui !»
Et il en fut ainsi, encore une fois. Au bout de quelques pas, elle tomba à genoux, avec une exclamation apitoyée. Les reflets éblouissants du soleil me dissimulaient ce qu'elle regardait. Je m'agenouillai près d'elle et sentis mon cœur se briser. Il le connaissait trop bien. Il avait dû le voir un jour dans le monde réel. Le chaton noyé flottait sous la surface. Si jeune qu'il n'avait même pas les yeux ouverts, il pendait sans poids entre les griffes de la mer. Ses poils formaient un halo autour de lui, mais quand Ortie le prit par la peau du cou et le sortit des vagues, ils se collèrent sur lui. Elle le tint en l'air, et l'eau dégoulina de sa queue, de ses pattes, de son museau et de sa petite gueule rouge. Sans peur, elle le déposa dans sa main en coupe, puis se pencha, le visage attentif, et appuya doucement sur la minuscule cage thoracique, entre le pouce et l'index. Enfin, elle approcha d'elle le chaton et souffla brusquement dans sa gueule ouverte. En cet instant, elle était tout entière la fille de Burick. Je l'avais souvent vue débarrasser ainsi un chiot nouveau-né du mucus qui encombrait sa gorge.
« Tu vas bien maintenant, »
dit-elle au chaton avec autorité. Elle caressa la petite créature et sur le passage de sa main, la fourrure se redressa, sèche et douce. Je m'aperçus alors qu'elle était rousse, à rayures blanches, alors que je la voyais noire un instant auparavant.
« Tu es vivant, tu ne crains rien et je veillerai à ce qu'il ne t'arrive rien. Tu peux me faire confiance, tu le sais, puisque je t'aime. »
À ces mots, ma gorge se noua brutalement. Où les avait-elle appris ? Toute ma vie, sans m'en rendre compte, j'avais attendu que quelqu'un me les dise et me donne lieu d'y croire. J'avais l'impression de voir remettre à un autre un cadeau que j'espérais depuis toujours. Et pourtant, je n'éprouvais ni rancœur ni jalousie. Je m'émerveillais seulement qu'à 16 ans, Ortie eut en elle le pouvoir de faire ce don. Même si j'avais réussi à trouver l'ours au milieu de son rêve et qu'on m'eût prévenu que je devais absolument prononcer ces paroles parce qu'elle seule pouvait le sauver, je n'aurais pas été capable d'y mettre la vérité qu'elle y avait insufflée. Elle était ma fille, la chair de ma chair. Mais la stupéfaction et l'éblouissement qu'elle m'inspirait en cet instant faisaient d'elle une création totalement distincte de moi. Le chaton s'agita au creux de sa main, puis promena autour de lui un regard qui ne voyait rien. Quand il ouvrit sa petite gueule rouge, au lieu du miaulement auquel je m'attendais, il fit d'une voix aiguë et enrouée
« Maman ?»«
Non, » répondit Ortie.
Ma fille manifestait un courage que je ne possédais pas. Elle n'avait pas envisagé une seconde de mentir.
Mais quelqu'un qui lui ressemble.
Elle parcourut des yeux le moutonnement des vagues, comme si elle ne l'avait pas remarqué jusque-là.
« Et tu n'es pas bien ici. Si on changeait de décor, où te sens-tu le mieux ?»
Les réponses m'étonnèrent. Avec une douceur infinie, elle obtint peu à peu tous les détails, et quand ils eurent fini, nous nous retrouvâmes assis, pas plus grands que des poupées, au centre d'un lit immense. Au loin,
je distinguais les parois floues d'un chariot de voyage, semblable à ceux qui servent aux marionnettistes et aux amuseurs de rue pour transporter leur famille d'une ville à l'autre. Dans l'air flottait l'odeur des piments séchés et des tresses d'oignons suspendues dans un angle de la roulotte, et je reconnaissais la musique omniprésente de Lourdes, non seulement la chanson de sa mère, mais aussi les éléments qui la composaient, la respiration régulière d'une femme endormie, le grincement des roues et les chocs sourds et lents de l'attelage, entretissés pour former l'arrière-plan du fredonnement d'une mère et d'un air enfantin joué sur un flutio, mélodie empreinte d'un sentiment de sécurité, de bien-être et de contentement.
« Ça me plaît, » dit Horty. « Si ça ne te dérange pas, j'aimerais revenir te voir un jour. Tu veux bien ?»
Le chaton se mit à ronronner, puis se roula en boule. Il ne s'endormit pas. Il savourait de se trouver au milieu du grand lit, sans rien à craindre. Horty se leva pour prendre congé. Je remarquai alors seulement, je crois, que j'assistais aux rêves de Lourdes, mais que je n'en faisais plus partie. J'en avais disparu en même temps que tous les autres détails discordants et dangereux. Je n'avais pas ma place dans son monde maternel.
« Au revoir, » dit Horty, et elle ajouta, « N'oublie pas que tu peux revenir très facilement. Quand tu voudras dormir, tu n'auras qu'à penser à ce coussin. »
Elle tapota un des nombreux oreillers aux broderies de couleurs vives qui parsemaient le lit.
« Garde-le en mémoire, et lors de tes rêves, tu arriveras tout droit ici. Tu t'en penses capable ?»
Le chaton accentua son ronronnement en guise de réponse, puis le décor s'évanouit peu à peu. Quelques instants plus tard, je me tenais à nouveau sur la colline près de la tour de verre fondu. Ronces et brouillards avaient disparu, et devant moi s'étendait un large paysage aux vallées verdoyantes parcourues de rivières scintillantes. Un détail me vint à l'esprit.
Tu ne lui as pas dit qu'il n'aurait plus le mal de mer.
Je fis aussitôt la grimace. Je devais paraître bien ingrat à Horty. Elle me lança un regard noir et je lus de la fatigue dans ses traits.
Crois-tu qu'il m'a été facile de trouver tous les éléments de son dernier rêve et de les assembler autour de lui? Il essayait sans cesse de tout retransformer en mer glacée.
Elle se frotta les yeux.
Je dors. Mais j'ai bien peur de me réveiller épuisé.
Je te présente mes excuses,
répondis-je gravement.
Je suis bien placé pour savoir qu'il peut être éprouvant de pratiquer la magie. J'ai parlé sans réfléchir.
La magie ?
S'exclama-t-elle avec dédain.
Ajuster les rêves n'a rien à voir avec la magie. Je sais le faire, c'est tout.
Là-dessus, elle me quitta. Je repoussais la crainte des discussions que mon message à Burick risquait de déclencher. Je n'y pouvais rien. Je m'assis au pied de la tour, mais, sans Horty comme point d'ancrage, le songe commença de s'effilocher, et je m'enfonçais dans un sommeil sans rêve qui n'appartenait qu'à moi.